Monsieur le professeur, on peut s'étonner qu'en 1963, une réunion se soit encore tenue à l'Institut Pasteur, réunion consacrée à la peste. La peste n'a donc pas disparu à notre époque ?
Mécanique des épidémies.
Eh bien, statistiquement parlant, elle a disparu, puisqu'il y a extrêmement peu de cas à travers le monde et que le nombre de cas baisse chaque année. Mais en réalité, elle n'a rigoureusement pas disparu. Elle est là, c'est une maladie dont nous disons qu'elle garde une potentialité, si vous voulez, redoutable.
Elle a provoqué la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. Elle a éliminé jusqu'à la moitié de la population de Constantinople ou de Marseille. Elle a détruit les corps, les sociétés et enflammé les imaginaires. Dans cette 7e saison de Mécanique des épidémies, on vous emmène sur les traces de la peste, la grande meurtrière. D'où vient-elle? Pourquoi elle tue si implacablement? Comment on a compris si tard le rôle réel du rat, de la puce? Et comment, malgré ses récentes recrudescences, on a finalement appris à s'en préserver? Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la variole ou le sida, le médecin Renaud Piaroux, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va vous guider dans cette enquête épidémiologique. Avec lui, comme auprès d'un détective, remontez le fil vers l'origine de la peste. Pour comprendre, grâce au progrès des sciences, comment cette épidémie a façonné notre monde. Mais pour ça, il faut remonter aux progrès qui ont permis de mieux comprendre sa transmission et sa diffusion à la toute fin du 19e siècle. Premier épisode, Yersinia pestis, enquête sur le bacille de la mort.
Dans l'imaginaire collectif, la peste est l'épidémie reine, mais en réalité, ce n'est pas que de l'imaginaire. Les pandémies de peste, donc des épidémies à l'échelle de plusieurs continents, ont été vraiment les maladies, les pandémies les plus graves que l'humanité a pu connaître, si on tient compte de la population qui existait à l'époque. Il y a eu 3 pandémies de peste. La première, qui est la peste de Justinien, est à la fin de l'Antiquité, tout début du Moyen-Âge. Elle touche le monde, on va dire, romain, mais aussi probablement l'Inde et la Chine au même moment, mais on a beaucoup moins d'informations. La deuxième est plutôt à la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle, c'est ce qu'on appelle la peste noire. Alors déjà, la peste noire, ça ne veut pas dire que les gens sont noirs quand ils attrapent la peste, ça veut dire plutôt au sens latin du terme, la peste affreuse, la peste horrible, la maladie horrible, parce que vraiment, elle faisait des dégâts considérables. Et cette pandémie a duré quand même pendant 400 ans. Et puis la troisième pandémie, plus récente, est arrivée au 19e siècle. Et là, on a su s'en protéger dans beaucoup de pays, mais il y en a encore quand même des pays comme l'Inde, au début du 20e siècle, qui a 12 millions de morts dus à la peste. Quand on attrape la peste, la plupart du temps, c'est après la piqûre d'une puce. Et la puce va injecter au cours de sa piqûre une bactérie qui s'appelle Yersinia pestis. Cette bactérie va être transportée jusqu'au ganglion le plus proche, une sorte de filtre, d'endroit où le système immunitaire de l'homme fait le tri entre les étrangers, les microbes et le reste. Et dans ce ganglion, le problème, c'est que le bacille de la peste, Yersinia pestis, est tout à fait capable de survivre à la bataille contre les cellules immunitaires. Donc, d'autres cellules arrivent, ça augmente, il commence à y avoir du pus, et puis on va avoir ce qu'on appelle un bubon, qui est finalement un ganglion complètement rempli de pus, lié à cette bataille entre les bactéries d'un côté et le système immunitaire de l'autre. Les bubons sont en aval de l'endroit où se situe l'arrivée de la bactérie, donc normalement par piqûre. Donc c'est au niveau de l'aine, au niveau des aisselles, ou du cou, selon l'endroit où la puce a piqué. Ce n'est pas le seul moyen d'attraper la peste. Dans certains cas, le bacille de la peste va dans les poumons, et à ce moment-là, une personne qui tousse, qui crache, peut émettre des bacilles de la peste et il peut y avoir une transmission aérienne de la peste qui change l'épidémie puisque au lieu de passer obligatoirement par la puce, ça peut aller directement d'homme à homme. Il existe grosso modo deux types de peste, la peste bubonique et la peste pulmonaire. La peste bubonique est la plus fréquente. Elle est la moins sévère, mais quand je dis moins sévère, c'est en gros 40 à 70% de létalité. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont la peste, en gros la majorité vont mourir. Si ça se passe bien, mais c'est plutôt la minorité des cas, le ganglion va se percer à la peau et le pus va partir sans que la bactérie ait réussi à passer dans la circulation. Si ça se passe mal, la bactérie passe dans la circulation et là, la personne n'en a plus que pour quelques heures à vivre, un jour ou deux, à tout casser. La peste pulmonaire, elle est quasiment mortelle dans tous les cas, sauf évidemment si on fait un traitement antibiotique efficace d'emblée. Pendant l'essentiel de l'humanité, et en particulier lors des deux premières pandémies, on n'avait strictement aucune idée de la cause de la peste. Ou plus exactement, l'idée qu'on en avait, c'était que c'était une punition divine vers les populations humaines, pour les punir de ne pas avoir respecté correctement la religion ou d'accepter en leur sein des personnes qui ne respectent pas la religion, d'où les attaques, les pogroms contre les juifs, par exemple, ou contre les étrangers. À chaque fois, finalement, on va trouver un bouc émissaire. Et la compréhension de la peste comme étant une maladie liée à un microbe vient simplement à la fin du 19e siècle. On est en pleine révolution pasteurienne et on commence à s'apercevoir que beaucoup de maladies sont liées à des microbes. On a déjà trouvé le microbe du choléra, par exemple. Et puis, cette troisième pandémie de peste prend de l'ampleur et va frapper d'abord la Chine. Et de la Chine, aller sur Hong Kong. Et au moment où il y a cette épidémie à Hong Kong, la France en particulier demande à un élève de Pasteur qui s'appelle Alexandre Yersin de se rendre à Hong Kong. Lui, il est actuellement en Inde. Il va se rendre à Hong Kong pour essayer de trouver la bactérie, le microbe qui donne la peste. Il va se trouver en fait en concurrence avec un scientifique japonais qui s'appelle Kitasato Shibasaburo, élève de Robert Koch. Donc il y a vraiment une concurrence entre deux écoles, l'école pasteurienne et l'école de Robert Koch. Et Yersin quand même arrive à se ménager un petit laboratoire et à l'idée d'aller chercher dans les bubons, enfin c'est pas une idée si originale que ça, mais enfin il l'a cherché dans les bubons, alors que Kitasato, lui, plutôt cherchait dans le sang. Et en fait, il y a beaucoup plus de bacilles dans les bubons, donc ça facilite les recherches. Et les deux vont décrire le bacille de la peste, mais Kitasato se trompe un peu, fait un peu un mélange entre le bacille de la peste et une autre bactérie, qui est la bactérie des pneumonies, le pneumocoque. Donc le rapport scientifique de Kitasato est discutable, celui de Yersin est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple à lire. Et il a, ayant trouvé ce bacille, évidemment, il démontre que c'est le bacille de la peste. Il avait remarqué que les rats étaient sensibles à la peste, qu'il y avait d'ailleurs avant les épidémies de peste, ce qu'on appelle une épizootie, c'est-à-dire une maladie chez l'animal. Et là, l'animal en question, c'est le rat. Et donc, il a pu inoculer le bacille de la peste à des rats qui ont fait eux aussi des bubons et sont morts de la peste. Donc, il a démontré le rôle du rat, le rôle de la bactérie de la peste. Et cette bactérie a fini par être appelée Yersinia pestis, en hommage à Yersin, qui avait trouvé la bactérie. Mon histoire n'est pas complètement terminée. Il manquait un acteur, qui est un acteur essentiel, surtout si on veut organiser la lutte, c'est la puce. Au moment où Yersin décrit la bactérie, explique que la maladie touche le rat, on ne sait pas par quel moyen la bactérie va du rat à l'homme. C'est discutable parce qu'on voit que des personnes ont manipulé des rats sans rien attraper, y compris des rats morts de la peste, et d'autres, finalement, à peine les ont approchés ou même ont été simplement dans la même pièce et sont morts de la peste. Et c'est donc Paul-Louis Simon qui est un peu le successeur de Yersin, puisqu'il va occuper le même poste que Yersin en Inde. Et à ce moment-là, l'épidémie qu'on avait à Hong Kong est arrivée en Inde. C'est d'ailleurs en Inde qu'elle va donner le plus de décès. Et ce qui est remarquable dans le travail de Paul-Louis Simon, c'est toute cette observation de ce qu'il a pu voir sur le terrain, avec d'abord cette description de l'arrivée de la peste chez les rats, des fois apportée par un homme, mais quand une personne arrivait dans un endroit où il n'y avait pas la peste, cette personne mourait de la peste parce qu'elle l'avait attrapée autre part. Ensuite, on ne voyait plus de peste, sauf chez les rats, dans la maison où la personne était morte et dans les maisons avoisinantes. Et quelques semaines après seulement, on revoyait à nouveau des cas de peste chez l'homme. Donc il décrit bien cette séquence. Et il décrit aussi de manière extrêmement détaillée le fait que certaines personnes présentent une toute petite lésion, de la taille d'une lentille, des fois un tout petit peu plus gros, de la taille d'une petite pièce de monnaie, qui se trouve souvent sur le dos du pied ou sur les mains, sur le même membre, par exemple, que le bubon qui va ensuite se développer. Donc cette lésion, il finit par l'attribuer à une piqûre de puce. Et donc, il va faire des expérimentations pour montrer qu'effectivement, certaines puces, alors il fait pas le détail, il est pas entomologiste, mais ces puces sont capables de contaminer un nouveau rat, par exemple en mettant un rat qui a la peste dans une cage, et dans une cage juste à côté, un rat qui n'a pas la peste. Les seules possibilités pour transmettre, ça va être les puces qui vont faire le voyage d'une cage à l'autre. Et là, il démontre que finalement, la peste, c'est une histoire d'une maladie qui va toucher les rats et qui est transmise de rat en rat par la puce. Et ensuite, la puce peut accidentellement aller tuer l'homme pour déclencher la maladie chez l'homme. Yersinia pestis, c'est vraiment le tueur intégral. Non seulement il tue l'homme dans la majorité des cas, mais il tue le rat aussi dans la quasi-totalité des cas, mais il y a quand même quelques rats qui arrivent à survivre, et même la puce en pâtit. En particulier, Yersinia pestis est capable de faire des bouchons, en quelque sorte, de se multiplier dans l'intestin de la puce, ce qui empêche la puce de digérer le sang, ce qui la force à régurgiter lors d'un repas sanguin, et puis ce qui l'affame aussi, parce qu'elle a besoin de ce sang pour se développer, et donc elle va piquer de plus en plus. Et finalement, ça améliore encore la transmission de la peste. Les parasitologues appellent ce phénomène un phénomène de facilitation. C'est-à-dire que Yersinia pestis, par sa conséquence sur la puce, va faciliter sa propre transmission. Le comportement de la puce va changer, elle va piquer plus volontiers, elle va piquer y compris l'homme parce qu'elle est affamée, et donc on a quelque chose qui facilite la transmission et qui facilite la multiplication de la bactérie puisqu'elle va trouver un nouvel hôte. Le simple fait de comprendre et donc de se dire ce n'était pas une punition de Dieu, c'était une maladie liée à un microbe qui circule d'abord chez les rats puis chez l'homme, c'est beaucoup plus facile de se protéger. Et d'ailleurs, les pandémies ne vont plus avoir la même allure. On était, lors des deux premières pandémies, sur des pandémies qui touchaient le cœur des empires, en quelque sorte, donc les pays les plus prospères, ceux qui avaient le plus d'activités commerciales. À partir de la troisième pandémie, les pays qui font des activités commerciales qui sont prospères vont trouver un moyen de s'en débarrasser. Ils vont améliorer la quarantaine à l'arrivée des bateaux, puisqu'on a déjà des bateaux à vapeur qui vont relativement vite. Et puis, ils vont pouvoir réagir assez vite s'il y a un début d'épidémie de peste. Par contre, les pays les moins riches, eux, restent avec des moyens limités. Et donc, la peste, qui était une maladie des empires, est devenue une maladie des pays en développement.
Bien avant d'être une pandémie associée à la misère, la peste allait toucher le cœur battant des empires politiques. Remonter le fil, avec Renaud Pierroux, jusqu'à la première pandémie avérée de peste, dans la Constantinople du VIe siècle.
va parler de peste dès la période grecque, en particulier dans la guerre du Péloponnèse. Thucydide raconte la peste d'Athènes. La peste d'Athènes, c'est une épidémie qui donne de la fièvre, qui donne des vomissements, qui donne une éruption cutanée. On ne sait pas trop ce que c'est. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas la peste. Et puis on va avoir aussi des épidémies de plus grande ampleur quand le monde romain se sera organisé, des épidémies qui vont toucher tout le pourtour méditerranéen, comme la peste antonine qui survient au IIe siècle. Ce serait la première pandémie, mais probablement liée à la variole. Et puis comme ça, on a encore la peste de Cyprien. Et jusqu'à ce moment-là, ça n'est pas cette maladie qui donne de la fièvre et des bubons.
Deuxième épisode. La peste de Justinien, rat noir et apocalypse.
La fièvre et les bubons sont repérés dans des épidémies au tout début de l'époque romaine et puis ensuite au fur et à mesure, plutôt en Égypte, au Levant, c'est-à-dire Liban, Syrie, et puis le long de la côte nord de l'Afrique, du côté de Carthage par exemple. Donc là, probablement ce sont des épidémies de peste, mais on en sait très peu de choses. Et la première véritable pandémie, elle survient à la fin de cette époque romaine, au tout début du Moyen-Âge. L'Empire romain s'est profondément modifié. Ce n'est plus Rome qui est la capitale de l'Empire, c'est Constantinople. La partie ouest, d'ailleurs, de l'Empire est plus ou moins aux mains des barbares, comme les Gaulois, par exemple. Mais la partie est de la Méditerranée orientale, est sur le contrôle de l'Empire romain d'Orient, en fait, de Constantinople ou de Byzance. La pandémie, qu'on va appeler peste de Justinien, parce qu'elle survient lors du règne de Justinien, va débuter en Égypte, dans un port qui s'appelle Péluse, qui a la particularité d'être sur le bord de la Méditerranée. Et donc, en fait, c'est aussi la communication avec la mer Rouge et, après la mer Rouge, l'océan Indien. Comme la peste, on le sait maintenant, a probablement son origine en Asie et en particulier en Asie centrale, l'idée, c'est qu'elle a probablement diffusé en Inde. De l'Inde, au travers de la navigation, elle est arrivée le long de l'océan Indien et elle est arrivée donc à Péluse. De Péluse, elle va aller à la fois vers Alexandrie puis la vallée du Nil et surtout, elle va remonter de port en port. Elle va toucher les différentes cités qui sont le long de la Méditerranée orientale. Pour arriver à Constantinople, on est là, à ce moment-là, au VIe siècle, on est vers l'an 541-542 pour l'arrivée à Constantinople. Ce qui permet de se dire que c'est réellement de la peste, c'est que là, la description fait bien état de ces bubons, de ces tumeurs ou les humeurs, parce qu'on pense que les maladies sont liées à des troubles des humeurs, se sont coagulées. Et donc ces bubons sont bien décrits, leur localisation dans l'aine, dans les selles, etc. Donc c'est à partir de cette description qu'on peut se dire qu'il s'agit bien de la peste. Le deuxième argument, c'est la mortalité extrêmement sévère et puis la diffusion.
Au début, seulement quelques personnes en plus moururent par rapport au taux habituel. Mais bientôt, ce taux atteignit les 5000 par jour, puis 10 000, et plus encore. Procope de Césarée.
Lorsque la peste arrive à Constantinople, on a alors un certain nombre de chroniqueurs qui sont là. Jean d'Éphèse, Procope de Césarée, qui vont décrire l'un et l'autre une maladie qui, au début, fait quelques morts, plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui les syndomyciles fixes, et puis petit à petit qui va toucher toutes les strates de la société. Constantinople, à ce moment-là, fait un peu plus d'un demi-million d'habitants, peut-être 600 000, peut-être 700 000 habitants. Et l'un comme l'autre parle de journées où il y aurait eu plus de... Je suis quand même un peu méfiant, je ne suis pas sûr qu'il les ait comptés, mais il y aurait eu plus de 10 000 morts dans la journée. En tout cas, c'est effrayant comme nombre, et effectivement, la ville de Constantinople est complètement submergée par les cadavres, ne sait plus comment s'en débarrasser, et il y a, les deux le racontent, cette histoire de cadavres jetés dans les tours, dans les remparts, et jetés ou placés en quinconce, Et un témoignage explique que finalement, les gens marchent dessus, ça presse comme on presserait du raisin dans un pressoir.
Les victimes de la peste étaient piétinées et foulées aux pieds comme des grappes de raisin. Une vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Jean d'Éphèse.
Et ça, c'est pas totalement neutre, hein, puisque on est sur une image d'apocalypse, on est sur une image de quasi fin du monde et de punition divine à nouveau. Un point intéressant, c'est que finalement, on avait éventuellement des épidémies de peste en Afrique du Nord dès le début de l'Empire romain, mais que la peste en tant que pandémie, donc d'épidémie de très très large ampleur qui va toucher plusieurs continents, donc l'Afrique mais aussi l'Europe et l'Asie pour la peste de Justinien, nécessitait que le monde romain en soit arrivé à un niveau d'organisation, de développement suffisant pour amener avec lui et assurer finalement le gîte et le couvert à un hôte qui joue un rôle essentiel, qui est le rat noir, Rattus rattus. Rattus rattus, c'est un rat qui vient du sud de l'Asie, donc qui a pas de raison de se balader autour de la Méditerranée, mais avec le commerce, avec les bateaux, il arrive en Méditerranée orientale presque 1000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, il va coloniser comme ça, progressivement, les côtes méditerranéennes, mais rester dans des proportions qui sont pas très importantes. Qu'est-ce qui intéresse Rattus rattus dans ce monde romain? Ben, c'est les réserves de grains. En particulier, l'Égypte et le grenier du monde romain. Donc, ces grains qui vont partir, ce commerce qui se mondialise, en tout cas qui se positionne tout autour de la Méditerranée, apporte à la fois un moyen de transport, les bateaux, éventuellement les chariots, et surtout de quoi manger pour le rat, qui trouve que c'est une très bonne idée de rester proche de l'homme et de se nourrir des grains qu'il va stocker en différents endroits. Et ensuite, le reste se fait tout seul. Les puces, elles, ont voyagé sur les rats et l'ensemble était là. Il manquait que la bactérie. Au moment où la bactérie arrive parce que il se passe quelque chose en Inde ou qu'un rat contaminé arrive sur un bateau, et ensuite tout va s'enclencher comme une meule de foin quand on approche une allumette. Tout était prêt parce que le mode de vie facilitait, et on n'avait pas vu à ce moment-là, personne n'avait compris l'importance évidemment du rat, de la puce et de cette organisation sociale. Au moment de la peste de Justinien, l'invasion du monde par le rat noir n'est pas encore terminée. C'est plutôt les zones autour de la Méditerranée, les ports, et puis de temps en temps quand même, quelques localisations en remontant les fleuves jusqu'au nord de l'Europe. Mais ça reste encore en partie limité. Et donc la peste de Justinien va faire beaucoup de dégâts. On a vu sur Constantinople que c'était quelque chose d'extrêmement meurtrier, mais va pas forcément toucher la totalité de l'Europe. Beaucoup de l'Europe continentale va échapper à cette peste de Justinien parce que le rat n'est pas encore solidement implanté dans toute l'Europe et en particulier l'Europe du Nord. Il est déjà là en Grande-Bretagne quand même, il est déjà là du côté de la vallée de la Saône, il est même là en Bavière, on le sait parce que c'est là qu'on a retrouvé des morceaux d'ADN anciens de la peste dans des dents de personnes enterrées à l'époque de la peste de Justinien. Donc on sait que la peste est arrivée jusque-là, on sait que le rat est arrivé jusque-là. Mais il n'était pas encore partout, et il était simplement en train de coloniser le monde humain. La peste de Justinien a eu une telle ampleur, elle a entraîné peut-être une dizaine de millions de morts, qu'on peut légitimement se poser les questions des conséquences historiques de cette peste. Est-ce que ça a achevé, par exemple, la chute de l'Empire romain d'Orient et de Constantinople? La réponse qu'on peut voir, en particulier dans la description qui en est faite par un auteur américain qui s'appelle Cal Harper, est peut-être un peu ambigu. C'est-à-dire que oui, ça affaiblit, mais en même temps, on voit que Justinien a continué à régner plus d'une vingtaine d'années après le début de la peste. Donc, c'est pas aussi marqué que ça. Il y a eu d'autres épidémies, d'autres pandémies qui ont eu plus de conséquences sur les populations locales. Je pense à la variole dans le Nouveau Monde. Là, ça a pu avoir des conséquences, mais plutôt d'un affaiblissement qui, peut-être, avec les générations suivantes, ont fini par vraiment assurer le déclin de l'Empire romain et peut-être l'essor de l'islam, puisque c'est juste à ce moment-là, au 7e siècle, donc juste à ce moment-là, vu d'historien, parce que c'est quand même assez longtemps après les premiers épisodes de peste à Constantinople, mais c'est à ce moment-là qu'on voit une nouvelle religion se développer, et il faut se rappeler quand même le lien que l'on faisait entre Dieu et la peste. Donc ça peut avoir aidé au développement de cette religion. On voit les pandémies de peste comme des épisodes relativement brefs. La réalité, c'est que ce sont des épisodes à répétition et la première pandémie, la peste de Justinien, va durer 200 ans. Pendant 200 ans, il va y avoir des vagues de peste, peut-être pas aussi importantes à chaque fois, mais quelquefois, quand une localité, quand une cité est touchée, ça peut entraîner la moitié des décès, comme ça s'était passé à Constantinople en 542. Et puis, au fil du temps, effectivement, les épidémies de peste sont devenues moins nombreuses. Alors c'est un sujet d'étonnement pour les historiens. Qu'est-ce qui a permis ces vagues? Évidemment, quand la peste arrive une première fois, beaucoup de rats meurent, la société se désorganise, beaucoup d'hommes meurent aussi. Donc l'activité commerciale diminue, puis la cité se repeuple, les rats reviennent, les grains sont là. Et on a une reprise, comme c'est une maladie qui n'est pas immunisante de la même manière, par exemple, que la variole. Quand on a fait une fois la variole, on ne la refait pas de sa vie. La peste, ce n'est pas le cas. Donc, il y a toutes les conditions pour que, quelques années après une épidémie de peste, si les conditions sont revenues à peu près à celles qui existaient, qui prévalaient avant, on a à nouveau une épidémie de peste dans le même endroit. Probablement, il y a quelque chose autour de ça. Et donc ensuite, on arrive 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle, l'an 1000, il n'y a plus de peste. Il n'y en a plus du tout. Enfin, il n'y en a plus du tout dans notre monde occidental. Il y en a encore en Inde, il y en a encore probablement en Chine, mais nous, on ne la voit pas. Et donc, elle est complètement oubliée. Personne ne se souvient de la peste de Justinien. On n'a pas non plus des livres d'histoire qui disent « La peste de Justinien a eu lieu en 542, etc. » Ça a été retrouvé après. Et quand arrive le 14e siècle et que la peste fait son retour, c'est une maladie nouvelle.
Avec la colonisation par le rat noir, cette fois de tout le pourtour de la Méditerranée, et les nombreux échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe, les conditions sont réunies pour faire émerger une nouvelle pandémie de peste qui se poursuivra sur 400 ans, la peste noire. Mécanique des épidémies. Retrouvez l'intégralité des saisons précédentes, choléra, sida, grippe, Covid, palu, variole, sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Il est important de s'intéresser à la peste parce que je pense que c'est l'exemple même d'une maladie qui est liée au développement humain et à la manière dont l'humanité s'est développée à une certaine époque. Et donc, il y a finalement un ensemble de conditions qui sont là avant. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le feu et à lancer la pandémie.
Troisième épisode, la peste noire, 400 ans, pour apprendre à vivre avec la mort.
On est alors dans une période plutôt favorable d'un point de vue climatique, entre l'an 1000 et 1400. À cette période-là, finalement, les cultures sont plutôt facilitées, beaucoup de grains à stocker. Et avec ça, dès l'an 1000, on commence à avoir beaucoup plus de rats noirs. Personne ne s'aperçoit de rien. Les rats noirs vivent dans nos maisons. Par contre, la peste, elle est loin. Elle est au cœur de l'Asie centrale. Et finalement, il n'y a pas trop de mouvements qui permettent à cette bactérie de venir aborder la Méditerranée. On va se retrouver à ce moment-là, au XIIIe siècle, avec l'Empire mongol. Gengis Khan, puis Kubilai et leurs descendants vont bâtir un vaste empire qui va aller justement de la Chine jusqu'aux confins de la Méditerranée. Ça veut dire que les routes commerciales sont à nouveau ouvertes, avec en particulier celles qu'on appelle les routes de la soie. Les routes de la soie permettent donc de faire communiquer le cœur de l'Asie avec l'Europe. Et puis, l'Empire mongol cherche à s'étendre. On arrive au XIVe siècle et une partie de l'Empire va être appelée la Horde d'Or. C'est la partie la plus occidentale de l'Empire. Et donc, l'Empire de la Horde d'Or entre en guerre contre les peuples d'Europe de l'Est et contre les comptoirs vénitiens et génois qui sont sur l'actuelle Crimée ou l'actuelle Ukraine, autour de la mer d'Azov, par exemple. Il y a un comptoir qui s'appelle Tanakh, un comptoir vénitien. Et puis en Crimée, on a Kaffa, qui est un comptoir génois. Et cette guerre va se solder par un siège, le siège de Kaffa. Et à ce moment-là, les Mongols de la Horde d'Or sont frappés par la peste. Ils sont frappés très violemment. Gabriele de Mussy, qui est un Italien de Plaisance, décrit comme ça une punition de Dieu qui tombe sur les Mongols. Et la réaction qui est décrite par Gabriele de Mussy, c'est que les Mongols vont utiliser leur, non pas leur catapulte, mais les trébuchets, une arme de projection, pour projeter les cadavres à l'intérieur de la ville de Kaffa. Et on explique, mais c'est discutable, que c'est de là que l'épidémie va se propager au reste de l'Europe.
Les Tartares, stupéfaits par l'immensité de la catastrophe provoquée par la maladie, et se rendant compte qu'ils n'avaient aucun espoir de s'échapper, abandonnèrent le siège et ordonnèrent de placer les cadavres sur des trébuchets pour les lancer dans la ville, dans l'espoir que la puanteur intolérable tuerait tout le monde à l'intérieur. Des montagnes de morts s'accumulèrent dans la ville, et les chrétiens ne purent ni se cacher, ni fuir pour y échapper. Il advint ainsi que parmi ceux qui purent s'échapper de Kaffa par bateau, il y avait des marins infectés par la maladie. Certains bateaux partirent pour Gênes, d'autres pour Venise ou pour d'autres zones chrétiennes. Gabriele de Mussy.
Cet épisode du siège de Kaffa est donc présenté comme la première guerre bactériologique, en quelque sorte. Alors, est-ce que les choses ont existé vraiment? Peut-être. En tout cas, c'est crédible, cette histoire de trébuchet. Est-ce que c'est là le point de départ de la pandémie? C'est plus discutable. Parce que, d'un point de vue chronologique, il semble que ce soit plutôt la paix qui ensuite a permis de reprendre le commerce, en particulier de l'embouchure du fleuve Don, qui se trouve dans la mer d'Azov, se trouve un comptoir qui s'appelle Tana. Le blé de l'Ukraine était transporté et allait vers Constantinople, l'actuel Istanbul. Et c'est de Constantinople que, en fait, en réalité, les marins génois et vénitiens ont pu l'amener vers l'Europe occidentale. Le premier port touché est d'ailleurs le port de Messine, en Sicile, avec une épidémie de peste à Messine, qui va ensuite diffuser sur la Sicile, passer de l'autre côté en Italie, et surtout, avec le port, partir vers le cœur de l'empire de l'époque. Finalement, c'est un empire commercial. C'est vers Gênes, et puis de l'autre côté, vers Venise, un tout petit peu plus tard. Donc Gênes et Venise vont être très fortement frappés par la peste. On a même repéré qu'à Venise, cette première épidémie de peste a tué plus de la moitié de la population. Mais il y en a eu d'autres, et pendant 400 ans, il y a eu jusqu'à 36 attaques de la peste sur Venise. C'est normal, c'est un port qui recevait beaucoup de bateaux qui venaient de différents endroits, dont des endroits qui avaient la peste, en particulier dans l'Orient. La peste, ensuite, va passer à Marseille et finalement diffuser à partir de ces endroits-là dans toute l'Europe et en Afrique du Nord aussi. Et c'est pour ça que là, on parle de pandémie, d'autant plus qu'on a à peu près la certitude qu'il y a des épidémies de peste d'une très grande sévérité, à peu près à la même époque historique, du côté de la Chine. Et on imagine que c'est la même chose en Inde, même si on a plus de difficultés à localiser, en tout cas moi j'ai eu plus de difficultés à localiser des épidémies de peste à ce moment-là.
La cruauté du ciel, et peut-être celle des hommes, fut si rigoureuse. L'épidémie sévit de mars à juillet avec tant de violence. Une foule de malades furent si mal secourus, ou même, en raison de la peur qu'ils inspiraient aux gens bien portants, abandonnés dans un tel dénuement, qu'on a quelques sûres raisons d'estimer à plus de 100 000 le nombre d'hommes qui perdirent la vie dans l'enceinte de la cité. Que de demeures pleines autrefois de domestiques, de seigneurs et de dames, virent enfin disparaître jusqu'aux plus humbles serviteurs. Que d'illustres familles, que d'imposants domaines, que de fortunes réputées restèrent privées d'héritiers légitimes. Que de valeureux seigneurs, de belles dames et de gracieux jouvenceaux, auxquels non seulement la faculté, mais Galien, Hippocrate et même Esculape auraient décerné un brevet de robuste santé, prirent le repas du matin avec leurs parents, leurs camarades et leurs amis. Et le soir venu, s'assirent dans l'autre monde, au souper de leurs ancêtres. Bocasse.
La pandémie donc va se développer, et pour l'Europe, on va parler de peste noire. Donc cette maladie affreuse, elle va diffuser sur à peu près 5 ans. Et là, je trouve qu'il y a un accord entre les différents historiens pour dire qu'elle a tué peut-être un quart, un tiers, donc une très très forte proportion de la population européenne en l'espace de 5 ans. Puis, elle semble se calmer. Et quelques années après, on est là entre les 5 ans, c'est entre 1347-1352, en 1360, rebelote. Un épisode, c'est Michelet qui parle là, un épisode de mortalité très important qui va toucher pendant 4 années la France. On regarde sur d'autres endroits, on s'aperçoit qu'en Angleterre, il y a pratiquement autant de morts à Londres ce deuxième épisode que lors du premier. Et puis en fait, on va s'apercevoir comme ça qu'il y a des vagues successives. Et au fil des vagues successives, les gens vont commencer à organiser leurs réponses. Évidemment, la première chose, c'est une réponse religieuse. Des processions, l'expulsion évidemment des étrangers, des juifs, les pogroms, parce que la peste est considérée comme étant une punition divine. Et donc tous ceux qui ne rentrent pas dans la religion telle que l'essentiel de la population la conçoive, vont être chassés. Dans les autres réponses, effectivement, il va y avoir un essai pour se protéger. On a vu avec Gabriele de Mussy que l'idée générale, c'était que c'est la putréfaction des cadavres, c'est cette puanteur, sont des sortes de miasmes qui sont le moyen de transmission de la peste. On n'est pas du tout focalisé sur les rats et les puces, les vrais moyens de transmission. Mais là, c'est plutôt ces cadavres, cette puanteur. Alors, les personnes qui vont être en contact avec les cadavres ou avec les malades, par exemple les médecins, vont utiliser des artifices pour se protéger. Ils vont porter un masque, mais un masque, ce sont ces longs masques, enfin, masques avec forme de bec. Et dans ce bec, ils mettent des plantes odorantes, des choses comme ça, pour se protéger des miasmes. C'est pas terriblement efficace, parce que de toute façon, c'est pas les miasmes. Ce qui se passe, c'est que, au moment où ils manipulent, etc., s'il y a des puces, et si ces puces peuvent arriver, par exemple, à grimper au niveau de la cheville, etc., c'est là que se fait la transmission. C'est au niveau de la jambe, de dessus du pied, et pas du tout au niveau de la respiration. Quoique, on sait que des formes de peste pulmonaire, évidemment, se transmettent par la respiration. Mais les plantes odorantes ne vont pas avoir d'efficacité non plus. On voit apparaître d'autres mesures, comme en particulier les lazarets. Lazaretto, donc c'est Venise qui commence. Marseille va le faire aussi. Et donc les bateaux qui arrivent et qui ont des cas suspects de peste vont être arrêtés avant de rentrer sur le port. D'abord, c'est un début de conception que finalement, il y a une cause aussi sur laquelle on peut vraiment agir. Et ce système est plutôt bien, petit à petit, bien respecté. Je pense que c'est une des raisons de la diminution des attaques de peste au fil du temps. Et en particulier, si on prend Marseille, Marseille a réussi à arrêter un grand nombre de bateaux où il y avait des pestiférés et éviter comme ça le passage. On voit l'importance que ça avait par l'échec de 1720. En 1720, on a un bateau qui s'appelle le Grand Saint-Antoine. Il vient du Levant, il apporte des tissus, et ces tissus, en fait, ont de la valeur. Et les marchands arrivent à organiser, finalement, le sauvetage de ces tissus, parce que les mettre sur une île exposée au soleil et au guano des mouettes et tout ça, c'est pas ce que voulaient les marchands. Et la peste commence à s'installer et on a une épidémie de peste à Marseille, on est en 1720, qui va tuer la moitié de la population, qui va se diffuser dans les villages de Provence et ça va donner lieu à la construction d'un mur qui s'appelle le mur de la peste qu'on va trouver dans l'arrière-pays et puis en vallée du Rhône. Alors les gens l'ont peut-être pas franchi, mais la peste a quand même réussi à passer et aller dans le massif central en Lozère. Et on a comme ça cette peste importante. Mais ça montre bien, parce que là, 1720, on a quelque chose de très documenté et on voit très bien que la peste reste extrêmement meurtrière, finalement aussi meurtrière qu'elle ne l'était lors de la peste de Justinien à Constantinople. On va avoir à peu près la moitié de la ville qui va mourir de la peste, ou presque la moitié. Si on compare la peste à d'autres maladies comme la variole, la peste est encore plus mortelle que la variole. Mais dans ses conséquences historiques, la variole a eu encore plus d'impact parce que c'est une maladie immunisante. La population qui a connu la variole devient en partie protégée, ça devient une maladie infantile. Et lors de, par exemple, la conquête du Nouveau Monde par les conquistadors, ils avaient l'avantage de ne pas souffrir de la variole. Donc quand la variole est arrivée, elle a largement contribué à faire chuter, par exemple, l'Empire aztèque et probablement aussi l'Empire inca. Parce que les Espagnols, eux, étaient protégés, et donc ça a donné ce déséquilibre. Pour la peste, d'abord la peste n'a pas voyagé de la même manière, elle est plus difficile à faire voyager quand même. Et puis lorsqu'elle a sévi, elle a sévi dans les deux camps en quelque sorte. Elle a touché, par exemple, les populations arabes qui étaient en Afrique du Nord, qui étaient au Moyen-Orient, aussi bien que les populations européennes. Donc ça n'a pas créé un énorme déséquilibre. Même si la peste a probablement un rôle dans la chute de l'Empire mongol.
Peu à peu, la peste disparaît en Europe et finit par se cantonner à quelques régions du monde. C'est en Asie qu'arrivera la troisième pandémie de peste au XIXe siècle, où elle tuera 15 millions de personnes, surtout en Inde. Alors que depuis peu, c'est en RDC et à Madagascar qu'on détecte de nouveaux foyers.
Quarantaine imposée il y a une semaine à cause de la mort d'un couple à la frontière avec la Russie et la Chine. Les deux Mongols sont morts de la peste. Mais comment ont-ils pu attraper cette maladie tout droit sortie du Moyen-Âge? Eh bien, ils ont mangé, nous dit-on aujourd'hui, de la marmotte crue. Le Siberian Times rapporte qu'une vieille tradition attribue à cette viande des bienfaits pour la santé.
Quatrième épisode, la peste aujourd'hui, des progrès de la microbiologie au nouveau foyer.
Très récemment, on a compris d'où provenaient les pandémies de peste, la première, la deuxième, et à peu de choses près aussi la troisième. C'est surtout une recherche qui a été menée sur la peste noire. Et la première étape a été des archéologues ont repéré en Asie centrale, au Kyrgyzstan, dans une région qui est surplombée de montagnes, une région de lacs et de vallées, dans certains cimetières qui étaient les cimetières de communautés chrétiennes qui vivaient là au Moyen-Âge, un épisode de mortalité extrêmement important en 1338-1339. En regardant les pierres tombales, simplement la date de décès, il y avait quelques décès par an. Et tout d'un coup, on a une centaine de décès, ou voire un peu plus. Donc, quelque chose de complètement inhabituel. D'ailleurs, sur certaines tombes, c'est même marqué « mort de la pestilence », on va dire. Mort de la peste, mais dans le sens pestilence, on ne savait pas. Donc l'idée était peut-être que cette pestilence était la peste. Un des éléments aussi, c'est qu'il y avait tous les âges. Et finalement, le ratio entre le rapport entre le nombre de morts à ce moment-là par rapport aux années précédentes était tout à fait comparable à ce qu'on pouvait voir dans les grandes villes européennes au moment de la peste noire, qui survient quelques années après. La fin du siège de Kaffa et l'épidémie de peste chez les Tartares, les Mongols, c'est 1347. Donc on est à quelques années, ça colle pas mal. Enfin, c'est pas un argument suffisant. Autre chose, c'est que dans cette zone d'Asie centrale, on trouve des animaux qui sont moins violemment tués par la peste, qui semblent pouvoir, en tout cas, les populations ne sont pas effondrées. Je dis moins violemment, c'est moins violemment que le rat noir. Ces animaux, c'est la marmotte grise. Et la marmotte grise vit en communauté. Et dans les terriers, on retrouve la peste chez les marmottes, on retrouve des puces infectées et finalement on s'aperçoit que on a là un foyer relativement stable de peste, mais de peste zoonotique parce qu'elle est chez les animaux. Faire le lien entre les deux était la chose importante. La première manière, c'est de regarder les génomes de la peste isolés lors de la peste de Justinien, lors de la peste noire, etc. Et puis les génomes de Yersinia pestis isolés chez ces marmottes. Donc il y a une diversité, c'est un peu comme un arbre, et on voit des embranchements, peste noire, embranchements, peste de Justinien, et l'ensemble des branches est couvert par les marmottes grises, donc on a l'idée que le réservoir est probablement là. Et puis, la cerise sur le gâteau est très récente, effectivement. En 2022, une équipe a pu retrouver de l'ADN ancien de Yersinia pestis parmi les personnes enterrées dans ces cimetières. Ils ont cherché chez 7 cadavres, ils en ont trouvé chez 3 d'entre eux. Ils cherchent dans la pulpe dentaire, qui est un endroit où le sang circule, mais une fois que la personne meurt, c'est relativement protégé. Et donc là, ils ont retrouvé, et dans 2 cas, ils ont pu reconstituer totalement le génome et s'apercevoir que c'était le tronc de l'arbre. Donc, on a là la preuve ADN que le point de départ se trouve dans cette région-là, dans cette zone du Kyrgyzstan où se trouvent les marmottes grises. Et puis, on a toujours des cas J'ai vu dans une revue médicale récente le cas d'un couple de personnes originaires de cette région-là qui étaient tombés malades de la peste après avoir consommé des marmottes grises crues. Donc le bacille est toujours là, il est toujours aussi dangereux et il circule à bas bruit en attendant de trouver des bonnes conditions pour diffuser, comme on l'a vu lors de la peste noire par exemple. Le fait de comprendre les racines finalement de la peste avant même son explosion lors de la peste noire ou lors de la peste de Justinien, ou parce que c'est pas si loin que ça, lors de la troisième pandémie de peste, permet de comprendre comment démarrent les pandémies. Et ça donne une idée sur là où il faut surveiller. Dans la troisième pandémie de peste, on va s'apercevoir que cette zone du Kirghizistan, en fait, va faire des petits. Par exemple, quand la peste va arriver aux États-Unis, elle va faire assez peu de cas chez l'homme, mais elle va circuler et elle va s'implanter dans les montagnes rocheuses. Et là, elle ne trouvera pas la marmotte grise, mais un autre animal qui est le chien de prairie. Et donc là, on est dans un peu des conditions similaires. Et il y a toujours de la peste. On dit peste selvatique, on n'est pas dans la forêt, mais la peste sauvage, en quelque sorte, aux États-Unis, parce que la peste a trouvé un endroit un peu similaire. Et on a un peu la même chose sur les hauts plateaux de Madagascar ou dans des zones montagneuses d'Afrique, dans la région des Grands Lacs africains. Au Kirghizistan et dans les montagnes rocheuses, les choses sont à peu près sous contrôle. Au cœur de l'Afrique, si on prend la zone qui est au nord de la région des Grands Lacs, qui touche l'Ouganda, l'est de la République démocratique du Congo, c'est une zone de guerre qui est dans des conditions finalement assez défavorables pour toute surveillance épidémiologique. Or, c'était dans les années 2000, l'OMS a signalé des épisodes d'épidémie de peste bubonique, mais aussi de peste pulmonaire, dans ces zones-là. Et j'ai eu l'occasion d'aller avec les collègues de République démocratique du Congo et puis une équipe marseillaise et même un chercheur sénégalais. On est allé essayer de comprendre quels étaient les mécanismes de cette peste. Et en fait, on se retrouve à nouveau dans une zone de montagne. On n'a pas trouvé l'équivalent de la marmotte grise. On a quand même vu qu'il y avait des rats. Il y a des rats, le rat gris, le Rattus norvegicus, et le rat noir, Rattus rattus, qui sont les deux bons vecteurs. Et on s'est aperçu que les personnes dans cette zone de montagne, avec la guerre, ont changé leur mode de vie. C'est des personnes qui cultivent, qui ont des grains, et les grains sont gardés normalement dans des greniers à l'extérieur. Avec des systèmes pour que les rats ne puissent pas facilement accéder aux grains. Mais comme il y avait une insécurité de plus en plus importante, il y a eu des vols, et donc les grains sont maintenant à l'intérieur des cases. C'est du sol en terre battue, et quand on regarde, il y a des trous qui servent de terrier pour les rats. Les personnes n'ont pas de lit, dorment à même le sol. Et on a mis des pièges pour récupérer les puces et on avait... Alors les pièges pour récupérer les puces, c'est une lampe tempête avec un peu de pétrole dedans qui va attirer les puces, qui est mise sur une grande assiette avec de l'huile. Et les puces, voyant cette lumière, sont attirées, sautent dans l'assiette et après, elles peuvent plus sortir parce que ça glisse, elles peuvent pas sauter, elles peuvent pas... Et donc on récupère les puces comme ça. Et on s'aperçoit donc que ces personnes-là dorment à même la terre, dans des endroits fréquentés par les rats parce qu'il y a des grains, et où on va trouver plein de puces. Donc on retrouve les conditions de transmission qui devaient fonctionner au Moyen-Âge en Europe. Alors que maintenant, la peste chez nous, on n'a pas de contact avec les rats. Mais on voit que si on revient dans ces conditions, la peste revient. Et puis à partir de là, on a des flambées de peste pulmonaire, localement ou à distance, des personnes qui vont travailler dans les mines. Il y a une concentration d'habitations dans de très mauvaises conditions d'hygiène. Et là, s'il y a quelqu'un qui meurt de la peste parce qu'il l'a attrapé et puis il meurt sur place, les l'enterrement, les conditions de vie, lancent des épidémies, y compris des épidémies de peste pulmonaire, comme on a pu voir. Et la dernière grande épidémie a eu lieu en 2017, c'est à Madagascar, où là, une personne qui était sur les hauts plateaux a pris un bus pour descendre, je crois que c'est à Tananarive, hein, pour aller d'abord à Tananarive, et puis ensuite ça a diffusé, et a contaminé par la respiration, parce qu'il était déjà atteint, contaminé les gens dans le bus, et ça s'est diffusé.
Dans cette école primaire du quartier d'Anjaïsour, pas de cours cet après-midi. Les classes sont occupées par les agents chargés de désinfecter et désinsectiser l'établissement. Raben Ranjamaroulaï est l'un d'eux.
Vous voyez, ces deux bidons sont différents. Ici, c'est du traitement pour tuer les puces. Là, c'est un traitement pour éliminer les microbes. On commence par les écoles qui sont dans des quartiers où il y a eu des cas de peste, comme ici à Andraïsoro.
Il y a eu officiellement plus de 2000 cas. Alors, on ne sait pas réellement le nombre de cas, parce que les cas suspects, tous les cas n'ont pas été confirmés. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que la mortalité a été quand même inférieure à ce qu'on avait pu voir dans les autres épidémies de peste, surtout pulmonaire. On est plutôt autour de seulement 25% de mortalité. Mais la peste existe toujours, c'est toujours une maladie extrêmement grave et on aurait tout intérêt à surveiller ces foyers de peste, sachant que de toute façon, c'est les conditions de vie qui déterminent l'expansion des épidémies. La peste se traite maintenant, mais c'est une maladie qui évolue très vite. Donc il y a des antibiotiques efficaces, ça marche. C'est pour ça que la mortalité, par exemple, à Madagascar, n'a rien à voir avec les 100% de mortalité qu'on avait lors de la peste au Moyen-Âge. Si on regarde l'est de la République démocratique du Congo, les épidémies de peste pulmonaire, au moment où on a vraiment l'épidémie, que les secours ne sont pas encore là, pendant quelques semaines avant que des équipes extérieures puissent accéder, on a des mortalités qui sont de l'ordre de 100%. Donc la peste, c'est toujours cette maladie extrêmement grave, mais on a des traitements, simplement il faut y penser suffisamment tôt et il faut un accès aux soins, il faut pouvoir traiter extrêmement rapidement. On n'a que quelques jours d'évolution entre le début de la maladie et la mort. Donc si le patient met plusieurs jours à venir, quand il arrive, c'est déjà trop tard. La peste reste une menace, en particulier pour les personnes qui vivent dans des conditions les plus précaires. On n'est pas à l'abri de transmission, y compris dans des bidonvilles, et donc il faut quand même rester méfiant. Par ailleurs, ça reste quand même le tueur parmi les tueurs, le bacille de la peste. Alors là, la menace est de nature différente. Il y a eu des expérimentations qui ont été menées en particulier en Chine lors de la Deuxième Guerre mondiale par les troupes japonaises pour essayer de militariser le bacille de la peste. Si on changeait son mode de transmission, ce serait une menace considérable. Mais c'est déjà une menace pour des personnes qui vivent dans des conditions précaires, pas trop loin des foyers de peste.
C'était Mécanique des épidémies, 7e saison, La Peste, avec l'épidémiologiste Renaud Piarou. Réalisation, Anne de Pelchin. Retrouvez l'intégralité des saisons précédentes, choléra, sida, grippe, Covid, palu, variole, sur franceculture.fr et l'application Radio France. Conseillère au programme, Camille Renard, avec la collaboration d'Élodie Piel. Prise de son, Tahar Bouklifa. Mixage, Grégory Wallon. Archivina, Clarie Monac.